Revenu. Donc, nous avons notre dernière intervenante de la journée, Eileen Hacker, une compatriote à moi, une Américaine, mais qui parle aussi très bien français, et qui est responsable des archives chez Paco Rabanne. Vous l'avez déjà entendu dans le séminaire, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant. Oui, c'est une collègue et amie, et on est ravis de la voir aujourd'hui. Et elle nous parle du coup de Paco Rabanne en 68.
Alors, je vais vous parler de... mon titre, c'est « Sous le métal, la femme », mais 68 selon Paco Rabanne. Alors, le 3 mai 1968, les étudiants sortent dans la rue et dressent les barricades en réponse au système politique conservateur mis en place par Charles de Gaulle dans la France de l'après-guerre. La classe ouvrière ne tarde pas à rejoindre le soulèvement dans un mouvement de protestation qui finit par paralyser l'ensemble du pays. Les événements du mai 68 ont entraîné un bouleversement social et politique qui a réinterrogé le droit des travailleurs, remis au cœur de l'espace public les questions d'égalité hommes-femmes et redéfinit bien globalement les valeurs de la société française. L'historienne Rebecca Arnold défend dans son ouvrage « Fashion, Desire and Anxiety » l'idée selon laquelle la norme masculine dominante qui sous-tendait tant d'idées culturelles en Occident a été démantelée par la multiplicité des définitions de la fémininité qui ne se définit plus comme l'antithèse du masculin. Dès lors, les valeurs de force, d'indépendance et de rationalité, auparavant considérées comme la seule prérogative des hommes, doivent s'en partager par les femmes. Et les changements de 68, de la démocratisation de la pilule contraceptive à la libération sexuelle, ont changé en profondeur la perception des femmes dans la société et vice-versa. Et ce désir de changement de ricocher à travers le monde. La fin de la décennie a également marqué le point culminant d'un séisme de la jeunesse, Youthquake, qui a littéralement éclaté durant les années 60. Cette culture a fortement influencé Paco Rabanne, tout comme de nombreux créateurs de l'époque, qui s'est inspiré des hippies et du mouvement anti-mode. Les jeunes ne souhaitaient pas ressembler à leurs parents, mais signifier leur différence et leur jeunesse à travers leur habillement. Cette mode se caractérise par l'utilisation de matériaux synthétiques, de couleurs vives, de lignes d'ourlet courtes que le modèle Twiggy incarne. Les silhouettes androgynes et les grands yeux de la biche, ce n'est pas Twiggy, comme vous avez vu, incarnent l'idéal type de la beauté de cette époque. Le 6 février 1966, un peu plus de deux ans avant les événements de 68, Paco Rabanne lance sa collection 12 robes importables en matériaux contemporains qu'il considère comme son manifeste. À propos de cette collection, il déclare « Ce sont des robes manifestes, comme en littérature, il y a des manifestes. C'est en poussant très loin certaines expériences qu'on arrive à un bouleversement des esprits. Avec mes robes en métal et en matière synthétique, je nettoie les yeux des femmes. » Les mannequins, elles, marchaient pieds nus dans les robes en plastique rhodoïde et en aluminium sur l'air du marteau 100 mètres de Pierre Boulez, chef-d'œuvre de l'après-guerre dont les musicologues ont qualifié la composition de surréaliste. Sa mélodie désarticulée et non linéaire est une bande sonore parfaite pour la vision de Paco Rabanne. Il faut aussi souligner que même Courrèges, qui avait choqué le monde de la mode en 65, en introduisant la mini-jupe en France, habillait encore les femmes avec des textiles classiques, du coton, de la soie ou de la laine, parfois du PVC. Rabanne, lui, avait choisi le métal, le plastique et le papier. Avant Paco Rabanne, des matériaux aussi quotidiens que l'on retrouve plus facilement dans une cuisine n'avaient encore jamais été utilisés dans la mode. La raison est évidente. de s'habiller en aluminium est encore moins confortable que de mettre un corset ou des talons hauts. Pour autant, la vraie transgression est symbolique. Le mépris total de Paco Rabanne pour l'aristocratie de textile signe une rupture totale avec l'ancien régime. Ces mini-robes en métal transparent font table rase des notions préexistantes dans la mode. Et la jeunesse, en ayant l'audace de porter ces robes, renverse les structures de pouvoir traditionnelles. Les idées non conventionnelles de Paco Rabanne sur la mode féminine ont largement contribué à rompre avec la vieille garde, la haute couture, les défenseurs de matériaux luxueux pour habiller les femmes, et aussi à propulser la mode dans la prochaine décennie. Paco Rabanne aura expérimenté jusqu'à la provocation, mais les femmes ont adhéré à sa vision. Peut-être sentaient-elles le caractère doublement libérateur de ses créations, pour les femmes et pour la mode. Pour les femmes d'abord, qui, habillées de métal, étaient en mesure de renverser les structures de domination masculine. Les robes sculpturales et lourdes étaient en effet, pour Paco Rabanne, un moyen d'armer les femmes pour mener leur combat. Il déclare même, alors qu'on lui demande pourquoi habiller les femmes de métal sur un plateau télé, il répond « Et pourquoi pas ? La mode est liberté et le créateur de mode peut, je crois, tout faire à toute liberté, tous les pouvoirs. S'il ne ridiculise pas la femme et s'il la met en valeur, il a le droit. Et pourquoi pas le métal, le cuir, le rhodoïde, le papier et autres matériaux de demain ?» Au-delà de ce désir de redonner aux femmes des droits égaux à ceux des hommes, il s'agit aussi de remettre en cause le statu quo d'une mode qui laisse des classes populaires à la porte de la création. Les inégalités économiques créent autant de discrimination que le sexisme et l'ambition du créateur est aussi de démocratiser la mode pour que les classes populaires puissent également s'en emparer. On perçoit dans ces interventions publiques datant des années 60 une forme d'amertume ou même un certain dédain à l'égard des maisons de couture plus établies. Il s'exprime notamment sur les coûts élevés des textiles et s'indigne qu'ils soient subventionnés par la Fédération française de la haute couture, qu'il, lui, n'intégra d'ailleurs qu'en 1971. Si sa rhétorique est résolument tournée vers la présent et la jeunesse, il justifie également l'utilisation qu'il fait des matériaux de cuisine, comme l'aluminium, par leur faible coût et leur accessibilité. Ironiquement, ces créations de haute couture restaient néanmoins importables en pratique pour les femmes de leur quotidien. Paco Rabanne n'a pas uniquement créé avec des matériaux que l'on retrouve dans les cuisines équipées, symbole de la modernité d'après-guerre. Il a également su innover en usant des méthodes inédites qui ne nécessitent pas de couture mais peuvent être assemblées à l'aide de pinces. Cette notion d'assemblage évoque l'univers du do-it-yourself, DIY, et il a par exemple commercialisé en 1994 un kit au prix de 375 francs pour que les mariées fabriquent elles-mêmes leurs robes et qui comprenait des pinces, une voile et du riz pour le mariage. Le créateur désacralisé jusqu'à être remplacé par l'artisan du quartier. Dans une autre intervention dans l'émission Dim Dam Dum, alors qu'un journaliste l'interroge sur la meilleure façon de réparer une robe avec un accroc, il répond du tic au tac, « Mon Dieu, vous avez pas mal de plombiers dans votre quartier sûrement, ou de petits bricoleurs autour de vous qui pourront vous réparer. » Il apparaît clairement dans ses interviews et dans ses choix de matériaux que Paco Rabanne a voulu se positionner contre l'établissement. Dans un article paru en 1967 dans le journal américain The Daily News, il déclare « L'époque de Cendrillon est révolue. Les nouvelles techniques, les matériaux synthétiques modernes et l'ouverture d'esprit de la société font descendre les vêtements spectaculaires haut de gamme, jadis réservés à une caste dominante. Ses penchants sur les idées progressistes sont cohérentes avec son éducation. » Fils d'un militaire républicain fusillé par les troupes franquistes en 1937 et d'une couturière militante communiste qui était en campe pour un créateur qui a sans cesse essayé de remplacer le travail couture première main dans la maison Balenciaga. Après la mort de son père pendant la guerre civile, sa mère et lui ont été contraints à l'exode. Ils ont notamment été internés dans deux camps de réfugiés français avant de s'installer en Bretagne pendant 10 ans. Le jeune Paco Rabanne n'a sans doute pas grandi dans un environnement privilégié. On peut spéculer que ses idées féministes ont été fomentées par son enfance passée auprès d'une mère célibataire engagée politiquement et active. Envisager Paco Rabanne dans le contexte de mai 68 requiert d'être surtout attentif à ses créations de la période qui précède. La mode opère toujours en avance sur son temps. En réalité, les collections qu'il présente en 68 sont déjà moins lourdes en aluminium, moins agressives et pâle fluide dans leur silhouette. La révolution était déjà en marche et les tenues de combat n'étaient plus d'actualité. Il est utile de revenir à une robe de sa collection de 67 pour illustrer ce qu'il entend par l'expression « habiller les femmes en armure ». La mini-robe qui présente est composée de plaques d'aluminium reliées entre elles par des anneaux métalliques. Elle s'avère étonnamment légère, surtout par rapport aux créations de Paco Rabanne de cette époque, qui peuvent parfois peser 10 kilos ou plus. Vogue Paris l'a saluée comme la nouvelle petite robe noire dans la même année. On la retrouve dans de nombreuses collections privées et de musées qui se laissent croire que son succès commercial fut important. À ce jour, j'ai vu au moins 8 de ces robes, en plus des 2 que nous avons actuellement dans notre collection, ce qui est assez remarquable. La prédominance de cette robe dans les collections de musées évoque pour moi l'idée d'une armée de femmes courant le monde entier et portant l'uniforme créé par Paco Rabanne. L'historienne Eileen Ribeiro parle de la façon dont l'aristocratie française, juste avant la Révolution française, a su abandonner les marques vestimentaires propres à sa classe pour adopter les codes vestimentaires de la classe ouvrière ou en portant des cocardes. De la même façon, les femmes de la haute société portaient les robes de Paco Rabanne faites de matériaux bon marché que l'on pouvait acheter dans une quincaillerie. Bien que l'on associe généralement les années 70 et 80 à la mode postmoderne, les premières collections de Paco Rabanne pourraient légitimement être qualifiées de postmoderne, comme le définit l'historienne Bonnie English. La qualité artisanale, nous avons dans nos archives un manteau qui a été fait à la main par sa mère, évoque le travail des premiers hippies qui faisaient leurs hauts en crochet et leurs jeans en patchwork. Cet aspect DIY et bricolage nous permet de voir en Paco Rabanne un précurseur du mouvement punk. Non seulement plaques d'aluminium, mais aussi boutons, perles en bois, coquillages et coquilles de noix de coco ont aussi figuré dans ces assemblages de robes. Selon l'historienne Lydia Kamitsis, Paco Rabanne fut beaucoup influencé par Marcel Duchamp, l'influence qui transparaît dans la façon dont Paco Rabanne a élevé les matériaux les plus ordinaires au plus haut niveau de la mode. Paco Rabanne ne voulait pas regarder dans le passé, mais plutôt amener les femmes à travers ses matériaux contemporains et rebassemblages dans le futur. Et je voulais juste vous laisser avec une petite vidéo pour... pour illustrer sa vision. Et le son.
Honnêtement, ça s'y est comment avec ces robes-là? Toujours de la même façon traditionnelle, en se servant du même muscle que l'on se sert depuis à peu près 10 000 ans.
On risque pas de se blesser ?
Non, pourquoi ? Il faut être vraiment très maladroit pour se blesser en s'asseyant.
Mais si je fais un accro, qu'est-ce qui se passe ?
Mon Dieu, vous avez pas mal de plombiers dans votre quartier sûrement, de petits bricoleurs autour de vous qui pourront vous réparer.
C'est quelque chose que j'ai lu, que je pense Lydia Kamitsis a écrit le seul bouquin sur Paco Rabanne et elle a passé beaucoup de temps avec lui. Donc, si elle le dit, il me semble qu'elle a peut-être eu de... Elle a dû lui poser. Et moi, ça me semble... Je ne veux pas dire que lui, il n'a pas fait des ready-made, mais c'est plus pour moi une évidence par rapport au fait qu'il a utilisé des matériaux de tous les jours et, comme je le dis, d'élever ces matériaux dans la haute couture.
Dans cette idée de thème de carapace, de protection, est-ce qu'il a été influencé par le programme spatial qui se déroulait à l'époque ou...
Je ne comprends pas.
Est-ce qu'il s'est inspiré peut-être aussi, par exemple, des combinaisons d'astronautes, cette notion de protection qui commençait d'apparaître ?
Paco Rabanne dit toujours qu'en fait, il ne se considérait pas comme un... Il n'aimait pas le... être considéré comme un couturier de futuriste. Pour lui, il était contemporain et il disait qu'il vivait dans son époque et pas du tout dans le futur. Parce que, comme je le disais, tous ces matériaux de cuisine étaient en fait très modernes et c'était des matières qui étaient soi-disant nobles pour une cuisine, oui, mais peut-être pas pour la mode, mais c'était tout nouveau, le rhodoïde, et donc c'est ce qu'il avait, mais je n'ai jamais lu qu'il était inspiré par, peut-être, bon, plus tard, on sait bien qu'il a eu, il parlait beaucoup de la Lune, mais à l'époque, il ne parlait pas de la Lune, il parlait de vraiment de maintenant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ?
Une question pour toi et aussi les charmantes personnes qui sont intervenues pour Yves Saint-Laurent. Je découvre Dim Dam Dom. Qu'est-ce que c'est comme émission ? Enfin, j'en ai entendu parler une fois, mais... Alors, c'était hebdomadaire, mensuel, enfin... C'était spécialement centré sur la mode ou
Peut-être vous pouvez répondre mieux que moi, mais moi je ne connais pas très bien. C'était une émission faite par Peter Knapp, mais je ne sais pas si c'était forcément que sur la mode.
Avant le dimanche de la femme, ou je sais plus ce qu'on avait animé une séance avec Lina sur ce thème, et en fait, en se plongeant dans Dim Dam Dom, tu découvres un monde de création et qui rompait complètement avec ce qu'il y avait à l'époque. Et c'est présenté par Daisy Galard. Et c'est totalement moderne. Et on a parmi les meilleures émissions. On a des émissions sur Courrèges, avec de la musique en fond, des décors. Il y a des émissions incroyables à voir. Et la plupart, en fait, c'est très peu étudié. Je sais qu'il y en a quelques-unes sur Lina, accessibles, et ça vaut vraiment le coup parce que c'est une créativité incroyable, quoi. Et bon, Dim Dam Dom, c'était dimanche. Pour aussi apprendre la mode et découvrir la mode des années 60, je pense que c'est une source qu'on néglige un peu, mais en tout cas, si vous allez à BNF, à Lina, vous avez accès en tout en intégralité, c'est incroyable, vraiment incroyable. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on conclut la séance ici? Oui. Bah écoutez, merci beaucoup Aileen, c'était
rien,
vraiment
merci à vous.
Passionnant. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je pense que c'est la richesse d'une telle séance, c'est d'avoir une vision d'historien, d'historienne de l'art et des visions issues des maisons, des archives des maisons. C'est toujours très enrichissant. Alors la prochaine séance, c'est le 19 octobre sur les uniformes. Militaires, les uniformes de travail et les uniformes dans l'aviation. Et on a notamment Guillaume De Sion qui est présent ici, qui va nous faire le privilège de nous parler des uniformes d'aviateurs. Pardon ? Donc, ici, des archives Air France. Donc, ça promet aussi d'être une belle séance. C'est le vendredi 19 octobre à 14h30.